Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne les particuliers et les entreprises dans leur gestion de carrière. Ce qui me passionne avant tout, ce sont les parcours atypiques. Je suis convaincu que faire les bons choix professionnels, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. La mission de ce podcast, c'est de moderniser la gestion de carrière, avec des invités et des conseils qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Ça y est, nous sommes en direct. Bienvenue Marie Delattre.
Salut Alban, merci.
Bienvenue à tous, bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de Trouver sa voie, le podcast dédié à la gestion de carrière. Il y en a peut-être qui arrivent par ton biais Marie et qui découvrent Trouver sa voie aujourd'hui. Merci pour la com d'ailleurs.
De rien.
Voilà, si vous nous rejoignez en direct, si vous écoutez cet épisode en replay, aujourd'hui on va parler de comment on peut construire une carrière un peu différente, comment on peut se tailler un job sur mesure, comment on peut essayer de faire un pas de plus vers son dream job ou ses dream jobs, non pas en se reconvertissant et en plaquant tout, mais en construisant sur base de l'existant. Et c'est quelque chose, c'est une façon de faire qui est pas forcément, qui est pas souvent mise à l'honneur au fond. On a tendance à se dire, j'aime bien ce que je fais, je reste, j'aime pas, je pars. Et mon invitée d'aujourd'hui, Marie, elle a fait autrement. Elle a construit pas à pas quelque chose de très puissant, de passionnant. Et elle l'a fait en partant de là où elle était déjà. Et voilà, à l'occasion d'un échange avec elle un peu informel, où moi, j'ai essayé de m'inspirer auprès d'influenceurs RH. J'ai essayé de comprendre un peu qui fait la pluie et le beau temps sur LinkedIn en matière de RH. J'ai découvert ton profil, Marie. On s'est appelé. Tu m'as raconté ton parcours. Je me suis dit, mais ça, faudrait qu'on en parle parce que c'est un super témoignage pour de la gestion de carrière, pour de la construction d'une vie épanouissante au boulot. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Et voilà, les petites news du podcast. Sinon, il n'y en a pas beaucoup. Tout va bien. Merci de votre fidélité. J'espère que les tutos, le nouveau format un peu court, vous plaît. N'hésitez pas à me faire du feedback. J'en ai reçu quelques-uns. N'hésitez pas à me proposer des sujets. Moi, j'en ai déjà une centaine sur le feu, mais n'hésitez pas à en rajouter. Et puis voilà, ce sera tout pour l'intro. Mais merci de votre fidélité. C'est top de se sentir soutenu par vous tous et vous toutes. Voilà. C'est déjà bien assez long comme ça. Marie, on va reprendre le micro, puis on a du pain sur la planche. Par une petite présentation. Qui es-tu? Et puis, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avant d'aller voir tout ton parcours, en fait? Comment tu t'es construite?
Bonjour tout le monde. Moi, c'est Marie. Et comme métier, aujourd'hui, je suis influenceuse RH. Ça fait toujours, ça surprend toujours les gens quand je dis ça, mais je crée des contenus RH et je travaille avec des entreprises qui s'adressent à cette population. Voilà, en deux mots.
D'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié de t'introduire en bonne et due forme. Donc, tu es influenceuse RH et tu as plusieurs cordes à ton arc. Tu as fondé une communauté RH assez influente en 2019 qui s'appelle la Sororité RH, c'est ça?
Oui.
Qui est sur Facebook. Si vous entendez cet épisode, on mettra les liens pour rejoindre. Pourquoi pas cette communauté?
Privé Facebook qui rassemble les femmes, oui. RH.
Seulement pour les femmes, donc. Je ne suis pas une femme.
Sororité. donc, que des femmes. Sinon, ça s'appellerait la Delphité RH.
Oui. non, c'est pour vous, les filles. Tu as aussi lancé un podcast qui s'appelle Les RH de la vraie vie. Yeah. Tu communiques sur Insta, sur LinkedIn, et tu as aussi créé une agence de conseil pour apprendre les clés pour parler avec des RH, ça, pour des personnes qui ont besoin de communiquer auprès de RH. C'est une agence d'influence, quoi.
Conseil en influence RH, on va dire, ouais. Et conseil en communication influence sur les réseaux sociaux à destination de cette cible particulièrement.
Ok, top. Bah, écoute, merci pour cette petite intro. Je te proposerais bien de revenir sur comment tout ça a démarré, en fait, simplement. Et pour ceux qui nous écoutent en direct, je sais que vous êtes quelques-uns, n'hésitez pas à faire un petit coucou en commentaire ou à poser vos questions. On peut essayer d'y répondre. Mais voilà, le format de ce genre d'épisode, c'est surtout une discussion avec Marie. S'il y a des questions, on essaiera d'y répondre au mieux. Mais sinon, vous pourrez retrouver aussi l'épisode en replay. Et donc voilà, c'est un format plutôt pour partager ce moment avec nous qu'un format de questions-réponses. Marie, je te repasse le micro. Comment est-ce que ça a démarré tout ça pour toi?
Eh ben moi, à la base, j'étais RH. J'ai fait des études RH, donc j'ai fait une licence généraliste de gestion, et après je me suis spécialisée en master en management des ressources humaines. Et ensuite, donc la dernière année, je l'ai fait en alternance, en poste de chargée de projet RH. Ensuite, je suis devenue assistante RH pour un premier vrai poste, entre guillemets, puis responsable RH sur un deuxième poste, trois postes RH. Et à la suite, en fait, de cette expérience-là, J'ai pensé au démarrage que c'était un burn-out, ce que je faisais. Mais avec le recul, je pense que c'était plutôt un brown-out, une grosse crise de sens sur quel impact j'avais, moi, avec ma carrière de RH, comment je pouvais travailler et surtout comment je pouvais faire face à une souffrance au travail qui était difficile à supporter pour moi. J'étais dans une entreprise où il y avait une ambiance très difficile, un climat social difficile, des difficultés financières. L'entreprise a ensuite fermé ses portes. Elle a fait faillite. Et c'était dur, en fait, en tant que RH, d'être au service de ces gens qui étaient si malheureux. Et donc, après cette expérience-là, je ne me voyais plus rester RH de la même façon. J'avais l'impression d'être impuissante, je voulais contribuer plus que ça. J'avais un léger syndrome du sauveur que j'ai identifié depuis, mais à l'époque, je ne l'identifiais pas. Je pensais que c'était juste que je voulais être utile. En fait, non, c'était je voulais sauver les gens. Et donc, pendant plusieurs mois, je me suis vraiment demandé ce que je voulais faire et je me suis rappelé l'envie est remontée. J'avais toujours voulu être entrepreneur. Depuis longtemps, je voulais être entrepreneur. Quand j'étais à la fac, j'avais participé à un programme d'entrepreneuriat. C'est un concours qui s'appelle les entrepreneuriales, qui est super. C'est pour monter une entreprise en fictif avec d'autres étudiants et ça m'avait beaucoup plu. Et donc, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans l'entrepreneuriat. Sauf que pour faire quoi ? Donc, au démarrage, je me suis dit bah je vais être consultante RH, puisque c'est un peu la logique quand on fait des études RH, on nous dit bah tu peux être responsable RH, DRH, éventuellement consultant RH. On nous dit plutôt que c'est pour la fin de carrière. Mais je me suis dit, bon, bah, moi, ma carrière dans les RH, je la voyais déjà terminée. J'arrivais même plus à aller en entretien d'embauche. Je partais en pleurant tellement je me voyais plus faire ça. Et pour autant, je voulais pas quitter la fonction parce que j'avais vraiment cette phrase qui tournait tout le temps. C'est j'adore les ressources humaines, mais je déteste ce que ça veut dire d'être RH en entreprise. Et je me suis dit, c'est quand même fou. Il y a quand même pas que cette façon-là d'être RH. Et donc, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas consultante RH? Donc, je m'étais centrée sur la gestion des compétences, qui était le sujet que je préférais quand j'étais salariée. Et j'ai fait toutes les erreurs possibles des entrepreneurs qui n'y connaissent rien, qui n'ont pas de modèle autour d'eux et qui savent pas comment s'y prendre. J'ai voulu construire une méthode pour, je vais m'adresser surtout aux petites entreprises qui n'ont pas l'habitude de faire de la gestion des compétences. J'allais parler à des dirigeants, mais ils n'étaient pas du tout intéressés. Moi, j'avais 25 ans, jeune femme, j'avais pas vraiment l'aplomb d'un chef d'entreprise. Et du coup, je me perdais un petit peu dans mon usine à gaz que j'étais en train de créer. Je parlais pas assez aux gens, je confrontais pas mes idées, je restais toute seule dans mon appart. Et au bout de 6 mois, donc ça faisait un an que j'étais plus RH, 6 mois d'errance, puis 6 mois à tenter ce projet-là, il y a quelqu'un qui m'a dit « Tu vas dans le mur, arrête ce projet-là. » Donc, retour à la caisse départ, qu'est-ce que je vais faire ? Et quelques jours après ça, je me baladais sur Facebook, sur des groupes de partage de pratiques RH. Et j'observais que bien que la fonction RH soit très féminine, ces groupes étaient quand même dominés par des hommes, qui n'étaient pas forcément RH d'ailleurs, des managers, des dirigeants, des personnes qui venaient poser des questions et auxquelles les RH répondaient et on les traitait pas toujours avec beaucoup de bienveillance, alors que c'était quand même des personnes qui venaient bénévolement aider les gens dans ces groupes-là. Et je me suis dit, pourquoi ne pas tenter une expérience sociale de rassembler les femmes, en fait, et d'écarter toutes les autres personnes, voilà, juste mettre les femmes RH dans un groupe et qu'elles s'entraident entre elles, qu'elles soient toutes au même niveau et qu'elles s'entraident. Et donc, j'ai eu cette idée. Le nom est tout de suite venu, la sororité RH, parce que bah, la sororité, c'était un mot qui n'était pas très connu à l'époque, qui est toujours pas très connu aujourd'hui, mais qui est le féminin de fraternité. Donc, voilà, les sororités, on pense au rassemblement de filles dans les universités américaines, les sororités, les fraternités, bon, c'est un peu l'exemple qu'on a. Et donc voilà, je voulais créer ça, une communauté de femmes. Donc j'ai créé un nouveau groupe Facebook. Le succès est arrivé tout de suite en termes de membres. Vraiment, il y a beaucoup de membres qui sont arrivés tout de suite. Par contre, ça a été très long de les faire parler. parce qu'il y a vraiment l'effet de groupe qui fait qu'au début, personne n'ose envoyer des messages, personne n'ose liker, personne n'ose commenter. Donc pendant plusieurs mois, j'ai fait des posts toute seule. Je posais des questions, personne répondait, je faisais des posts, personne likait. Et heureusement, à l'époque, c'est plus vrai aujourd'hui, mais à l'époque, on avait les statistiques de lecture des posts Facebook. Et donc, je voyais que quasiment tous les membres lisaient, mais personne ne commentait. C'était très long. Je crois que ça a duré 4 mois. Avant que ça commence un petit peu à répondre. Et je me suis accrochée. Alors moi, j'étais au chômage hein, à ce moment-là. Hein. Je vivais de ça, je vivais de mes droits chômage. Et je passais toutes mes journées là-dessus à compulser des blogs, à écrire des textes que j'osais pas publier, à faire des posts Facebook pour animer le groupe, etc. Enfin, je sais pas, je voyais qu'il y avait du succès. Je me disais, ah, je vais pas m'arrêter là, je vais être persévérante. Et j'ai bien fait parce que au bout de plusieurs mois, ça a commencé à se bouger. Il y a commencé à avoir des questions, des commentaires. Et moi, je me suis dit, je vais faire des contenus plus longs. Je vais ouvrir un blog. Donc, j'ai ouvert un blog qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui s'appelait sororitérh.com. Toutes les semaines, je publiais un article et je voulais pas parler de paye, de recrutement ou de sujets techniques RH. Je parlais vraiment de mon parcours et de comment j'étais perdue en tant que RH, comment je trouvais pas ma place, comment je me sentais décalée par rapport aux autres. Je racontais aussi comment, quand j'étais étudiante RH, on me disait que j'étais pas faite pour ça, que j'avais pas ma place dans la fonction, qu'il fallait que j'abandonne. Et tout le monde s'accordait sur ça, quoi. Tout le monde me disait, non, c'est pas les RH, t'as rien compris à ce que c'est. C'est pas un boulot où tu vas aller aider les gens. C'est pas assistante sociale, t'es RH. C'est une posture gestionnaire. T'es là pour gérer des colonnes de chiffres, quoi, globalement. Et moi, il n'y a pas moyen. J'étais vraiment rebelle et je voulais pas du tout rentrer dans cette case-là. Et ce blog et cette communauté, c'était l'occasion de savoir s'il y avait d'autres personnes qui ressentaient ça aussi, qui avaient eu le même parcours. Si personne n'avait réagi à l'appel, si tout le monde m'avait dit « toi, t'as rien compris », je pense que je me serais reconvertie complètement et je serais partie dans autre chose, dans un autre métier, peut-être j'aurais repris des études, j'en sais rien. Mais en fait, il y a plein de femmes à qui vivaient la même chose, qui étaient autant paumées, et je recevais tout le temps des mails, des commentaires de filles qui disaient « ça me fait tellement de bien que tu parles de ça, parce que moi je ressens exactement la même chose, et je pensais que j'étais la seule, je pensais que j'étais détraquée, et en fait non, je me rends compte que si on était en 2019, on parlait pas du tout de la santé mentale des RH à l'époque, le burn-out, la posture professionnelle, tout ça, il y avait rien sur Internet, presque rien. » Et du coup, c'était hyper innovant, en fait, de parler de ces sujets-là. Personne n'avait fait. Et donc, bah, le blog s'est développé. Et moi, je me suis dit, je vais essayer de vivre de ça. Je vais essayer de trouver un business model qui convienne. Et l'idée, c'était que les RH soient mes clientes. Et en fait, je ne trouvais pas de business model qui fonctionne. C'est difficile de monétiser l'entraide et le système communautaire. Surtout en France, on n'est pas trop pour donner de l'argent sur ce genre de choses. Ouais. C'est compliqué. Et donc j'ai testé plein de choses, j'ai fait une communauté privée payante, il y avait les plus fidèles qui en faisaient partie, mais ça ne suffisait pas du tout à dégager un salaire suffisant. J'ai tenté d'organiser des événements, pareil, des événements payants, ça passait pas. Voilà, j'ai tenté plein de choses, de faire des séances de coaching, de conseil, mais moi j'étais pas coach, donc du coup je me sentais pas forcément à ma place non plus. Je me voyais pas non plus repasser un diplôme de coach, etc. Je voulais vivre de mon truc tout de suite, donc du coup je me suis entêtée pendant plusieurs années à tester des choses. Et en fait, à la faveur du Covid, mes droits chômage ont été pas mal prolongés. J'ai eu la chance d'avoir mes droits chômage qui ont été prolongés peut-être de 6 mois. Et à la mi-2021, là, c'était fini. Plus de droits chômage, rien. Là, il est temps de faire un choix et de décider ce que tu fais. Donc, j'ai tenté un coup de poker et j'ai tenté de dire à la communauté, je suis désolée, je ferme la communauté gratuite, j'en ouvre une payante. Et si vous croyez au potentiel du truc, vous me suivrez sur la communauté payante qui n'était pas chère, hein, c'était quelques euros par mois. Et ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai très mal communiqué sur le projet. Elles n'ont pas compris parce que je ne m'étais pas mise en avant en tant que fondatrice. Je m'étais toujours dissimulée derrière la communauté. Et du coup, elles avaient l'impression de voir débarquer une folle là de nulle part qu'elles ne connaissaient pas et qui venait leur demander de l'argent. Et du coup, elles ont pas du tout apprécié. Avec le recul, je comprends. C'était très maladroit de ma part, mais c'était l'énergie du désespoir. Et donc, ça n'a pas fonctionné. Et donc, ce que j'ai choisi, c'est de continuer à faire tout ça bénévolement en reprenant un job alimentaire. Je suis allée bosser dans un restaurant au SMIC pendant 1 an et demi pour continuer à faire ce que je faisais, parce que malgré tout, ça me passionnait. Je savais au fond de moi qu'il y avait quelque chose que je voulais pas abandonner. Et donc voilà, donc j'étais serveuse, je faisais ce truc-là bénévolement. C'était un peu dur comme rythme, parce que du coup, j'avais 2 boulots. Et Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, ma notoriété, elle a commencé à beaucoup augmenter. J'avais lancé le podcast, j'avais lancé Instagram, j'avais lancé LinkedIn, et j'avais des marques qui commençaient à, donc des marques, j'entends des entreprises qui évoluent dans le domaine RH, donc des outils de recrutement, des logiciels de paye, des SIRH, donc les logiciels pour gérer les ressources humaines, tout ça, qui sont venus me voir en me disant. T'as une communauté qui est intéressante, t'as une influence sur le domaine, alors qu'à l'époque, j'étais pas du tout connue comme aujourd'hui, vraiment rien à voir. Mais déjà à l'époque, ces entreprises-là m'avaient repéré. Ça devait être du bouche à oreille. Et elles m'ont proposé de faire des campagnes qu'on appelle influence aujourd'hui, mais à l'époque, c'était, je sais plus comment on dit ça, des campagnes de sponsoring, des tests. Donc, je testais les outils, j'en faisais des articles de blog, j'en parlais sur le podcast, sur des trucs. Ça me permettait pas d'en vivre, mais ça commençait, il y avait un petit quelque chose qui commençait. Et le deuxième basculement, c'est en 2022. 2022, je me dis, j'en avais marre de bosser au resto, forcément, d'être au SMIC à temps partiel. C'était un peu, bon, c'était pas forcément ce que j'avais imaginé en ayant un bac plus 5 RH. Et donc, je me dis, je vais me lancer vraiment sur LinkedIn. Mais cette fois-ci, je ne vais pas faire l'erreur que j'ai faite sur Facebook, c'est-à-dire me cacher derrière ma communauté. Là, je vais travailler mon personal branding. Je vais me mettre en avant moi et je vais assumer vraiment mes idées, mon côté clivant. Et donc, j'ai commencé à publier tous les jours. J'ai commencé par faire 30 posts d'affilée, un par jour sur LinkedIn. J'avais 5000 abonnés à l'époque et je voulais, sur l'année 2022 entière, je me disais, si je passe de 5K à 10K, déjà, ce sera pas mal. Au bout de 2 mois, je les avais, les 10K déjà. Et à la fin de l'année, j'étais à 40. Et aujourd'hui, je suis à plus de 70, 2 ans après. Donc, ça a vraiment énormément augmenté sur l'année 2022. Après, ça a continué. Mais c'est vraiment l'année 2022 qui a tout bousculé. Et du coup, bah, les entreprises avec qui j'avais commencé à travailler sur l'influence, elles m'ont recontacté. J'en ai contacté d'autres. Il y en a d'autres qui m'ont contacté. Et en fait, ça a commencé à se développer énormément. Et petit à petit, j'ai commencé à pouvoir vivre de l'influence. Et aujourd'hui, ça fait un peu plus d'un an que je vis entièrement de l'influence et des campagnes que je fais sur principalement LinkedIn, mais aussi je fais sponsoriser mon podcast. J'interviens en conférence ou sur des événements. Je me fais rémunérer pour ce genre de choses. Et voilà. J'ai fait tout le parcours.
Bah, merci. D'habitude, je coupe mes invités tout le temps. Et puis là, j'ai pas eu envie parce que c'était structuré. Et puis aussi, j'avais tellement de choses sur lesquelles j'avais envie de rebondir que bah, du coup, ça en faisait tellement que j'ai rien fait. Parce que je trouve que ton histoire, elle résume au moins une dizaine d'éléments de gestion de carrière que je trouve super important. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, sinon on va ouvrir la boîte de Pandore. Et notre but, c'est quand même que dans 5 minutes, tu puisses nous partager tes petits conseils sur le thème d'aujourd'hui. Créer son propre métier à partir d'un boulot traditionnel. Mais quand même, un peu à chaud comme ça et à la volée, dans ce que tu nous dis, moi, ça m'a fait tilt sur plein d'aspects. Le fait que cette notion de sillage, quand on réfléchit à où on veut aller, on essaie d'avoir une ligne de mire, une sorte de phare et de se dire, je vais avancer vers ça. Avec ton histoire, j'ai l'impression que ça aurait été impossible pour toi en 2017 de savoir qu'un jour tu aurais été influenceuse RH et payée par des marques pour parler de ces marques-là.
Ça n'existait pas.
Ça n'existait pas, et même si ça existait, je ne sais pas si tu te serais projeté dessus.
Non. Non, c'est tellement éloigné d'un métier de la communication plus des RH. Moi, à l'époque, je voulais faire une communauté de RH. Je voulais que les clients que j'ai, ce soient les RH. Je ne savais pas que j'y arriverais pas. Donc
Et je trouve ça super intéressant parce que tu vois, quand on est ce podcast, c'est un podcast de gestion de carrière. Ceux qui nous écoutent sont parfois RH ou coach, mais souvent des actifs qui sont en train de réfléchir à développer leur carrière, bouger, monter, grandir, changer. Et on a toujours tendance à s'arc-bouter sur où je vais. C'est la grande question, où je vais. Mais parfois, on sait pas. Souvent, on sait pas. Et ça n'empêche pas d'y aller, en fait. Et ton histoire le montre. Et en fait, toute l'énergie qu'on met à essayer de savoir où on va, c'est l'énergie qu'on ne met pas à faire des premiers pas, et tu nous en parleras après. Mais je trouve que ton histoire, elle est très itérative, et ça t'a emmené quelque part, et ce quelque part, il est chouette, et tu ne pouvais pas le deviner à l'avance. Donc, j'ai tendance à penser que la vocation, c'est un sillage, ce n'est pas une cible, c'est un sillage derrière nous. Et je trouve que ton histoire l'illustre super bien. Je ne vais pas aller trop loin, mais autre élément qui m'a marqué dans ton parcours, dans ton histoire, c'est la résilience. C'est qu'on a tendance à se dire, je vais galérer à trouver où je vais. Peut-être que je vais faire un bilan de compétences, je vais peut-être faire du coaching, je vais faire une retraite de méditation, que sais-je. Et une fois que je saurai, c'est bon, ce sera calé pour toute la vie ou pour les 10 prochaines années. Et en fait, non, ça t'a demandé 4-5 ans au fond, toute cette histoire-là.
Oui.
Et avec des hauts, très hauts, des bas, très bas, un job alimentaire entre-temps, ça demande du temps. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Et donc, l'enjeu n'est pas tant de trouver, mais que d'être résilient, comme pour des entrepreneurs. On dit souvent, l'enjeu, c'est pas de savoir si ta boîte va marcher, c'est combien tu peux rater d'entreprises avant d'abandonner, avant d'avoir créé celle qui marche. Et je trouve que ton parcours raconte aussi ça, est une vraie réalité de la gestion de carrière. C'est le fail fast, quoi. Rate le plus vite possible pour aller à la suite, pour re-rater jusqu'à ce que ça marche, quoi. Et ça demande du temps, ça demande beaucoup de résilience. Et bravo, enfin, ton parcours illustre ça à merveille et je trouve ça super inspirant. Mais si je me lance sur tout ça, il y a encore plein d'éléments que je voulais partager et c'est pas le but. Donc je ferme là. Je vais pas ouvrir la boîte de Pandore encore plus et je te repasse le micro. Toi aujourd'hui, sur cette thématique de créer son propre métier à partir d'un job normal, d'un job classique ou à partir de son job tout simplement, est-ce que tu aurais des conseils à donner à nos auditeurs de, voilà, que ce soit, enfin quel que soit le boulot, hein, que ce soit un boulot dans les services, dans les bureaux, en production, cadre, pas cadre, voilà, comment tu vois les choses toi?
Bah, t'as commencé à l'évoquer, mais il y a une théorie que j'adore et que j'ai appliquée vraiment dans ma vie et que je continue à appliquer au quotidien, c'est la théorie des petits pas. C'est l'idée qui veut que c'est super difficile de faire un saut d'une situation qu'on connaît à une situation qu'on connaît pas du tout. C'est-à-dire de changer de métier, de changer de statut, de changer de zone géographique d'un coup. Si quand j'étais RH salarié, je m'étais dit « Tiens, je vais devenir influenceuse lifestyle tout en déménageant en Corse », j'aurais jamais fait parce que c'était trop différent de ce que je connaissais. Et que du coup, moi à l'époque, je savais que je voulais garder RH, mais je savais pas trop quoi mettre autour. C'est juste RH salarié, ça marchait pas. Donc je me suis dit, bon bah RH entrepreneur. Et dans l'idée, c'était plus tard, peut-être un jour, je serai entrepreneur, pas RH. Et donc j'ai fait un pas vers quelque chose de différent, tout en gardant un pas dans ce que je connaissais déjà. C'était beaucoup plus simple pour moi d'écrire et de raconter des choses sur un métier que je connaissais. En plus, ça m'a légitimé parce que bah, les RH, elles savent que j'ai vécu ce qu'elles ont vécu. Donc du coup, ça légitime ma position. Et ça me permet aujourd'hui de traiter des sujets qui sont plus éloignés. Aujourd'hui, je parle aussi beaucoup de féminisme, de développement personnel, de diversité, d'inclusion, des sujets qui me parlent moi aussi en tant que personne et pas forcément que en tant que professionnelle. Mais je l'ai pas fait tout de suite. Au début, je suis vraiment restée sur mon histoire, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je ressens là maintenant. Et c'est ça qui a fait évoluer. Tu l'as dit, c'est en fait je voyais pas moi l'étape d'après à chaque fois. Là, je viens de rajouter une nouvelle étape. C'est que depuis début 2024, je fais aussi du conseil en influence RH. Là, c'est très récent. En fait, c'est parce que je me suis rendu compte que je le faisais avec mes clients en influence, mais je le faisais en plus, quoi, gratuitement, comme ça, pour rendre service. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire une activité à part entière. Donc, je l'ai ajouté. Et peut-être que l'étape supplémentaire, ce sera de faire du conseil en com tout court. Et sans la partie RH, j'en sais rien. C'est juste aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait kiffer, de quoi je veux vivre et comment je le mets en place. Et après, je verrai bien qu'est-ce sera la prochaine
étape. Ouais, et en gardant, on va dire, comme tu disais tout à l'heure, il y a deux cerceaux. Enfin, tu as les pieds dans un cerceau, tu gardes un pied dans un cerceau quand tu vas explorer le deuxième cerceau. Quoi.
C'est ça.
On ne saute pas les deux pieds. J'avais lu une étude là-dessus, je ne retrouverai pas la source, je pense, mais c'était une étude qui montrait qu'on avait. On était beaucoup plus. Alors, comment est-ce que je peux résumer ça? Qu'on préfère ne pas perdre que gagner. Et que si on a le choix entre gagner beaucoup ou perdre un peu, on va toujours éviter de perdre un peu, même si on aurait pu gagner beaucoup. Et cette étude-là, elle partait sur plein d'exemples. Mais l'idée, c'est vraiment que on va être beaucoup plus sensible à ce qu'on peut perdre que ce qu'on peut gagner. Et donc, ça va dans le sens de ce que tu dis, et qu'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, on voit ce qu'on peut perdre, on ne voit pas forcément ce qu'on va gagner dans ce qu'on ne connaît pas. Et ça nous bloque complètement. Et tes petits pas, ils vont dans ce sens-là.
Je pouvais toujours revenir en arrière. Je suis redevenue RH. Je l'ai pas évoqué dans le parcours, mais j'ai fait aussi des retours en salariat RH entre temps. Parce que j'avais gardé ces compétences-là et que mon CV n'était pas complètement n'importe quoi non plus, que j'avais RH, entrepreneur RH, je suis revenue RH salarié, je suis repartie, je suis devenue serveuse, mais serveuse, c'était aussi parce que j'avais déjà les compétences. Quand j'étais étudiante, j'avais un job étudiant qui était de serveuse, donc c'était des compétences que j'avais. Et j'ai construit un parcours comme ça, cohérent, avec plusieurs grandes branches, mais qui me permet de sauter de l'une à l'autre en cas de besoin, puisque ça a toujours été dirigé sur comment je paye mon loyer ce mois-ci, quoi. ça qui est difficile sur l'entrepreneuriat, qui est vraiment stressant, c'est qu'il y a toujours ce côté un petit peu stressant financièrement. J'essaie d'être la plus transparente possible sur comment je gère mon entreprise, etc. Et par exemple, en février, j'ai fait 0 de chiffre d'affaires. J'avais pas le moral, j'avais beaucoup de problèmes perso, j'avais pas de projet en cours. Là, sur mars, c'est pas du tout pareil. J'ai fait un très bon chiffre d'affaires, mais sur février, j'ai fait 0. C'est pas grave, j'avais de la trésorerie, donc j'ai pu tout à fait payer mes factures quand même. Mais ça m'a stressé. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et si en mars, je faisais 0 aussi? Non, c'est pas arrivé, c'était un mois comme ça. Mais c'est un truc à accepter quand on est entrepreneur, et c'est je sais pas si un jour on l'accepte totalement, mais moi pour l'instant c'est toujours stressant, quoi. Donc voilà.
Ouais, mais tes petits pas, ta stratégie des petits pas permet, si on se plante, et se planter ça fait partie de la route, de refaire un petit pas en arrière. Ouais, c'est sûr que si t'étais devenue apicultrice sur le CV, c'est peut-être plus dur de retourner sonner dans une postuler pour un poste de DRH.
C'est pour ça que j'ai pu trouver un job alimentaire quand j'en avais besoin, et peut-être que on sait pas de quoi l'avenir est fait, peut-être que j'en aurais re-besoin dans 2 ans et que je retournerai dans autre chose, enfin j'en sais rien. Mais en fait c'est bien d'avoir plusieurs portes ouvertes, et de ça stresse moins d'avoir plusieurs portes ouvertes que se dire allez, je fais all-in là au casino, je mets toutes mes billes sur cette case là et si cette case là ça marche pas, je suis SDF et j'ai plus un euro et terminé, et ma vie est finie, quoi. Que non, en fait,
ouais.
Faut voir le plan dans son ensemble, quoi.
Et puis l'ensemble, il demande du temps. Là, pour le coup, je m'accapare un peu le micro, mais le projet, quel qu'il soit, demande du temps et de la résilience. Et du coup, ce temps, il faut bien pouvoir le financer, en fait, hein, d'une manière ou d'une autre.
Oui.
Et faut pouvoir se sécuriser sur un backup si ça rate, quoi. Et rater, ça fait partie de la route, en fait.
Oui, puis en fait, les entrepreneurs, à force d'en fréquenter, on est tous un peu... Enfin, il y a quand même beaucoup qui vivent comme ça, qui ont des mois super difficiles, après qui font des missions qui sont un peu plus éloignées de ce qu'ils font, mais parce que le client était là, parce que l'activité était là et qu'ils avaient besoin de sous, ou parce qu'ils avaient un projet à financer ou tout ça. Enfin, c'est vraiment pas... c'est vraiment pas un long fleuve tranquille, quoi. Des fois, il y a des opportunités qui se présentent. Là, pour le coup, les entreprises qui sont venues me chercher pour faire de l'affluence, moi, j'y aurais jamais pensé toute seule. C'est elles qui sont venues me voir en me disant, tiens, ça te dit pas, j'ai fait d'accord, on va tester. Ça, c'est un conseil aussi qui est bon à prendre, c'est tester. Au pire, si vous vous rendez compte que ça vous plaît pas, vous arrêterez. Le nombre de business models que j'ai testé et que j'ai pas aimé et que du coup, j'ai arrêté, et c'est pas grave. Et plus personne s'en souvient aujourd'hui, hein, et au contraire, même les clientes que j'avais à l'époque, c'est toujours des proches et c'est toujours enfin, elles me l'ont jamais reproché. Parce qu'à chaque fois, j'ai été honnête. En fait, j'ai testé un club une communauté privée payante. Je l'ai arrêté au bout de 3 mois. Parce que je ne me retrouvais pas. C'était énormément de boulot pour très peu d'argent. Et du coup, j'ai contacté mes clients. J'aurais dit, je suis désolée, mais j'arrête. Je suis toujours à votre dispo si vous avez besoin d'aide sur ça, ça, ça. Et en fait, aucune ne me l'a reproché parce que je leur ai juste dit la vérité. Quand j'ai retrouvé un job alimentaire, je l'ai dit. Et même après, sur LinkedIn, quand j'ai commencé à percer sur LinkedIn, je le disais, quoi. C'est que à côté, moi, je vivais d'un salaire de serveuse. Et c'est pas grave, quoi. Il n'y a personne qui est venu m'insulter.
Je retiens plusieurs points dans ce que tu nous dis. Les petits pas, c'est-à-dire de pas forcément sauter de tout quitter, mais de garder un petit pas dans ce qu'on fait déjà, ou une sorte de légitimité. J'y associe un peu le concept de backup. Si ça rate, comment je peux vivre, tout simplement? Qu'est-ce que j'ai comme bouée, si je dois faire un peu marche arrière quelque temps, ou temporiser un an ou deux le temps que ça démarre, à quoi je m'accroche? Est-ce qu'il y a d'autres leviers que tu identifies pour construire son propre métier à partir d'un boulot?
Eh ben, ça rejoint un peu ce que je commençais à évoquer, c'est parler. Ne pas faire l'erreur que j'ai faite moi au début de m'isoler, de penser qu'on allait voler mes idées, de me dire faut que j'en parle à personne parce que c'est top secret mes projets. Confronter les idées, c'est la façon la plus rapide de savoir si ça a un potentiel ou pas. Et de toute façon, si vous faites quelque chose qui fonctionne, alors je parle aux personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat et qui veulent imaginer quelque chose de nouveau, de toute façon, au bout d'un moment, il y a des gens qui vont vous copier si vous faites de l'argent avec. Donc, dire il y a pas de business où vous pourrez tout garder pour vous et personne se rendra compte. Et d'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose en fait qu'il y ait des gens qui disent ah ton idée elle est cool. Après, bah, évidemment le plagiat c'est pas sympa, mais on va souvent dans l'effet inverse où on dit non. par risque, par peur du risque qu'un jour on vole mon idée, qu'on la fasse mieux que moi ou tout ça, on va pas en parler. Et en fait, on peut rester très longtemps sur des idées de merde. Parce que on n'est pas allé en parler aux gens et que si on avait parlé à plusieurs personnes, peut-être qu'au deux minutes, la personne, elle t'aurait dit, alors non, ton idée, moi, ça me parle pas du tout. Par contre, si tu inverses ces deux éléments, là, ça peut faire un super truc. Et j'essaie de le faire avec les gens qui me contactent pour parler, des gens, voilà, qui, par exemple, qui sont entrepreneurs dans les RH ou qui se lancent, tout ça, et qui m'envoient des messages. J'essaie de répondre, je réponds pas vite, mais j'essaie de répondre et de leur dire, justement ça, en fait, d'être super honnête en fait sur le fait de alors t'as pensé à faire ça, franchement connaissant les RH, se m'étonner que ça marche, on peut toujours se tromper, mais bon j'y crois pas. Par contre si tu fais ton activité comme ça là c'est un beau potentiel parce que j'ai identifié un besoin, etc. Et ça c'est hyper précieux à avoir comme retour des gens, et c'est bien en fait d'en parler à des gens qui ont rien à voir avec votre secteur d'activité de base, parce qu'ils peuvent avoir une vision totalement différente de si on traîne toujours avec les mêmes gens, on va tourner un petit peu en rond, puis il n'y en a pas forcément des nouvelles idées qui arrivent, que si on va parler avec des gens qui sont complètement différents, qui viennent de secteurs totalement différents, on peut importer des bonnes idées d'un secteur à l'autre. Et donc, c'est hyper pertinent, en fait, d'en parler avec les gens et d'expliquer ses projets, etc. Puis, ça intéresse souvent les gens aussi de réfléchir à des idées de business. C'est des discussions assez sympas à avoir. Donc voilà, ne restez pas isolé avec vos projets, vos idées, que ce soit une reconversion, que ce soit d'entrepreneuriat, peu importe, c'est bien d'en parler.
C'est ce que tu dis, ça m'évoque un point un peu parallèle qui est aussi parfois on a besoin de changer de proche quelque temps, famille, amis, cousins. Je sais pas si tu vas aller dans le sens de ce que je dis, mais il y a des fois où notre entourage devient un carcan, surtout quand on doit faire un pas de côté. C'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas, pour quelques mois ou quelques années, c'est juste indispensable de changer un peu d'écosystème parce que les gens nous renvoient simplement ce qu'ils peuvent nous renvoyer. Et si on n'est qu'avec des gens qui n'ont jamais entrepris et qu'on leur demande si notre idée de boîte est une bonne idée, invariablement, leur réponse sera non, puisqu'en fait, ils ne savent pas et vont nous renvoyer leur peur. Tu partages ce ressenti ?
Oui, j'ai dû le faire. Alors, pas forcément changer, mais j'ai dû m'éloigner un petit peu. Par exemple, ma famille, qui aujourd'hui est un soutien inconditionnel, au début, ils avaient peur. Donc, ils m'ont pas encouragé dans cette voie et je leur reproche rien parce que mes parents ont tous les deux été salariés toute leur vie. Donc, ils ont pas du tout de... Et moi, j'arrive avec en plus... je les comprends. Moi, j'étais RH salarié avec un bon diplôme, un bon salaire, tout ça, j'avais des responsabilités. Puis un jour, on leur dit, bon, j'en ai marre d'être RH, je vais lancer un groupe Facebook et je vais vivre de ça. Et ils ont un peu paniqué, ce que je comprends totalement. Et comme en plus, ça a mis des années avant de fonctionner, j'ai eu plusieurs discussions avec mes parents où ils disaient, tu crois pas que c'est le moment de retourner sur le droit chemin, d'utiliser ton diplôme, tout ça. Et aujourd'hui, ils comprennent le truc. Et même, ça, c'est ça qui est beau, c'est que ça les a inspirés eux-mêmes à envisager l'entrepreneuriat. Donc, comme quoi, on peut être aussi un modèle inversé avec les enfants qui montent des nouvelles voies aux parents. Il y a toujours des gens dans ma famille qui comprennent pas. Pour le coup, eux, j'ai coupé les ponts. Et mes amis ont pu changer. J'ai des nouveaux amis. J'ai gardé certains anciens. Mais oui, enfin, l'entourage a changé forcément. Mais en fait, c'est assez naturel. Quand nous, on évolue, l'entourage, il évolue parce que si on parle des mêmes sujets sans arrêt et que les gens s'y retrouvent pas, on se voit moins et puis on finit par plus se voir. Et après, on rencontre d'autres personnes. Les amis que je me suis fait depuis quelques années, ils sont tous entrepreneurs. C'est pas très étonnant. Parce que c'est des sujets sur lesquels on se retrouve. Et Bon, j'ai gardé quand même des anciens qui ne le sont pas, mais qui suivent, où on se retrouve sur d'autres sujets. Enfin, c'est pas grave, quoi.
Ouais, puis c'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que parfois, quand on doit faire un pas de côté, le pas de côté, il est aussi social, quoi.
Oui. Ça peut être bien d'ajouter, en fait, ça peut être bien de faire des pas de côté aussi sur l'entourage, ajouter des nouvelles personnes qui vont nous encourager, d'où le fait, ça rejoint le fait d'en parler, aller dans des afterworks, des cercles d'entrepreneurs, des nouvelles activités, des nouveaux cercles pour ajouter, ça veut pas dire qu'il faut absolument casser ses relations avec tous les gens qui nous entourent parce qu'ils vont pas forcément comprendre. Il y a des amis qui peuvent être très bons amis sans tout comprendre et juste ils vont être dans le soutien, sans forcément comprendre tout, ils peuvent avoir peur, il faut aussi, c'est juste un ajout d'autres personnes qui, eux, vont nous encourager dans cette voie-là, qui vont mieux comprendre, qui vont pouvoir nous accompagner. Et puis, pour chaque personne, on se pose la question. Par contre, si c'est quelqu'un qui est vraiment toxique, qui essaie de nous forcer à arrêter ou qui dit vraiment c'est vraiment une mauvaise idée, mais qui n'a aucune légitimité à le dire, il y a des fois où il faut couper les ponts, mais bon, c'est nécessaire. Si l'influence de la personne est plus toxique qu'autre chose, ça ne sert à rien de la garder dans sa vie et ça va juste nous plomber. Donc, c'est inévitable.
Donc, ce conseil-là, c'est en parler, ne pas rester dans son coin, mais choisir aussi à qui on en parle, quoi, à qui on partage son intimité de projet, quoi.
Oui, ou alors si on en parle à quelqu'un, être OK aussi avec le fait que la réponse sera pas forcément exactement celle qu'on attend et pas prendre personnellement le retour et se rappeler toujours que la réponse d'une personne, ça va parler que d'elle-même. Une personne qui a peur, c'est une personne qui aurait peur de faire ce que vous faites. C'est pas une personne... de toute façon, même si... Enfin, en fait, tout a changé dans ma vie quand j'ai réalisé que rien n'est grave, en fait. Rien n'est grave. On peut toujours rebondir, on peut toujours recommencer, on peut toujours changer. Je l'ai compris surtout quand j'étais dans cette entreprise où j'étais RH qui a fait faillite, où à la fin, c'était n'importe quoi. On respectait plus rien. Il y avait plus rien qui allait. Et pourtant, tout le monde est toujours en vie. C'est pas grave, la boîte, elle a fermé. Et puis voilà, on est reparti sur un nouveau projet, chacun de notre côté. Et bon, c'était triste sur le moment, mais tout le monde s'en est remis. Et quand j'ai pensé que ma communauté se retournait contre moi et que j'arriverais jamais à en vivre, j'ai repris ce job alimentaire. Pendant 6 mois, j'ai pas fait grand-chose à part ce job-là. Puis après, j'ai repris courage et je me suis relancé avec une nouvelle stratégie, etc. C'est ouais, la résilience.
Ce que tu dis, ça me rappelle une personne qui m'a contacté sur My Job Glasses. C'est le réseau pour contacter des professionnels et pour découvrir des métiers. Et le gars voulait monter un podcast et assez jeune et dit du coup j'ose pas me lancer parce que j'ai peur du public shaming si je dis des bêtises et tout, tu vois. En fait, il se projetait déjà dans l'hypothèse où il avait un podcast avec 1 million d'auditeurs et où il dirait une connerie et où ça se retournerait contre lui. Et tu vois, il y avait comme ce truc là de attends, t'as pas compris que pendant 2, 3, 4, 5 ans personne ne va t'écouter, en fait. Il y a aucun enjeu, c'est pas grave.
Surtout des commentaires de podcasts, déjà, même les gros podcasts, ils n'en ont pas beaucoup. Alors, oui. Un petit podcast qui démarre. Et de toute façon, en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'avoir des haters, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que tu as une influence suffisante pour qu'il y ait des haters qui arrivent. Mais tous les gens qui se lancent dans la création de contenu, les premières années, ils ont pas de commentaires, ou presque pas, ou des gens qui sont d'accord avec eux. Ça peut être contredit sur les réseaux sociaux aujourd'hui, etc. Mais bon, c'est vrai que oui, c'est un peu anticiper une peur qui va arriver peut-être plus tard et qui, de toute façon, peut être apprivoisée progressivement.
Ouais, c'est ça, c'est une question de progressivité. Et d'ailleurs, tu disais que quand tu as commencé, tu n'avais pas de retour.
Non. Non,
zéro, à part savoir que tes articles étaient lus, quoi. Enfin, que tes posts étaient lus.
Ouais, il y avait 1000 membres, j'avais statistiques de lecture, 800 lectures et 0 like, 0 commentaire.
Ouais.
C'était long.
C'est rude quand même.
Ouais.
D'ailleurs, tu vois, ce média, trouver sa voix, ça commence à se développer un petit peu. Il y a eu 2 fois où j'ai abandonné, dont une fois où j'ai abandonné 1 an, quoi. Parce que t'as l'impression d'être nul, que ce que tu fais, c'est nul. Mais en fait, c'était pas grave. C'est reparti après.
Ouais, t'as retrouvé le courage de relancer.
Et ton histoire le raconte aussi. Donc, pour ceux qui nous écoutent, si tu nous entends, que ce soit en direct, en replay, voilà, n'oublions pas cette question de résilience, là. Ça va prendre du temps, quoi. Ça va prendre du temps, soyons pas naïfs.
Ça prend beaucoup plus de temps qu'on s'imagine. Mais en fait, si ça vous plaît de le faire, indépendamment des retours, continuez à le faire, même pour vous, quoi. Moi, en fait, ça me plaisait de créer des contenus, ça me plaisait d'écrire, ça me plaisait de publier des trucs. Du coup, j'ai continué à le faire quand même. J'étais triste de voir qu'il y avait si peu de retours. Mais comme j'aimais le faire, je le faisais quand même, quoi. Parce que, en fait, il faut pas se forcer à faire des trucs que pour le public, quoi. Parce que là, c'est plus dur de garder courage si on fait que pour les autres. Si ça nous plaît pas de faire une action, mais qu'on la fait uniquement pour les autres, au bout d'un moment, on peut se fatiguer ou se demander pourquoi on le fait, etc. Il y a eu des moments où j'ai abandonné aussi, où j'ai repris plus tard, parce que des fois, les périodes de vie font que c'est plus difficile à tenir. Mais comme ça m'a toujours plu de créer, j'ai toujours continué d'une manière ou d'une autre en testant. Enfin, c'est toujours compliqué de trouver le juste milieu entre ce qui nous plaît à nous, ce qui plaît à notre public. Enfin, évidemment, dans le cas où on est sur des business en public, parce qu'il y a aussi des gens qui, ce genre de questions, ne parlent pas, ils cherchent juste un boulot qui leur plaît.
Bien sûr.
Mais sur ces questions-là, ouais, c'est bien d'être résilient et surtout se concentrer sur ce qu'on aime faire et capitaliser là-dessus. En plus, en général, c'est ce à quoi on est bon. On aime, on est bon, on s'améliore, etc. Et ça finit toujours par payer. La problématique, souvent, c'est que les gens vont abandonner. Ouais. Donc, typiquement, je crois que j'écoutais l'autre fois un truc sur les podcasts qui disait qu'il y avait la grande majorité des podcasts s'arrêtent avant le 20e épisode. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il, forcément, en 20 épisodes, tu peux pas rencontrer du succès si tu pars de zéro. Si certes, t'es connu sur un autre réseau, pourquoi pas, mais même aujourd'hui, moi, j'ai pas des stats de fou sur mon podcast. Il est connu, entre guillemets, parce qu'il y a pas énormément de concurrence sur le podcast RH, mais ça commence vraiment à arriver, donc, voilà, faut partager un peu plus le gâteau. Mais, j'ai vraiment pas des stats folles par rapport à des podcasts grand public, et c'est juste que c'est une niche. Et donc, c'est plus facile de faire son trou sur une niche que sur un contenu très, très grand public où là, je serais noyé dans la masse de tout ce qui se fait.
Ça nous fait une intro. Ce que tu dis là, ça peut être une intro pour ton un des points dont tu voulais parler sur tabler sur ses qualités, si mes souvenirs sont bons.
Niche, quoi. C'est ça, c'est cet outil-là dont on parle des fois, je sais pas, peut-être que t'en as déjà parlé à tes auditeurs, l'Ikigai, qui est un outil que j'aime beaucoup, qui est cet outil japonais où on remplit les cases, vous chercherez si jamais vous connaissez pas, c'est un schéma en mosaïque avec quatre cases, ce que j'aime faire, ce à quoi je suis bon, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je peux être payé. Et là, je le refais régulièrement quand je suis un petit peu perdu. C'est très difficile à remplir. Je pense que personne ne peut le remplir en entier, parce qu'on trouve pas forcément les liens.
Je prends la balle au vol parce qu'on a fait un épisode dédié avec Amandine Bussa sur ça justement en direct, où il y a tout un ikigai qu'on peut faire, et donc c'est. Ça me fait penser que je dois mettre la ref.
Ça fait petite promo pour cet épisode-là, pour continuer sur l'ikigai et les gens que ça intéresse. Mais moi, j'aime beaucoup cet outil, même s'il est très difficile. Même si on ne le remplit pas en entier, ça permet quand même de poser ses idées et de se dire « Ok, alors ce que j'aime, c'est ça. Comment je peux être payé comme ça ?» et de faire un lien entre les deux. Et donc moi, j'avais mon terrain de jeu RH. Ce que j'aime faire, c'est créer des contenus, écrire, parler, m'exprimer, transmettre, etc. Bon, ben voilà, influenceuse RH, c'est venu de là, quoi. Parce que c'était le croisement entre mon expertise, ce que j'aime faire, et paf.
Et donc ici, l'idée, c'est quoi? C'est de tabler sur ce qu'on a déjà, sur quoi? Sur des compétences, sur des appétences, sur de l'expérience. Comment tu vois ça, toi? Pour quelqu'un qui nous écoute, qui n'est pas RH, ni coach en gestion de carrière, je sais pas, moi, peu importe d'ailleurs sur quoi, mais qui dirait, allez, je m'y mets.
Il y a plein de créateurs de contenu qui ont démarré là-dessus. Par exemple, il y a une fille qui est pas mal connue sur TikTok. Sa passion, c'est qu'elle aime manger. Elle aime manger. Et du coup, elle a commencé à faire des contenus où elle mangeait des plateaux de fromage en direct. Et ça a énormément plu parce que sa personnalité plaisait aux gens. Et du coup, elle a commencé à faire des contenus là-dessus. Et maintenant, elle est influenceuse bouffe. C'est génial. Et pour le coup, les influenceurs, ça marche bien parce que tu as des influenceurs dans tous les domaines du monde.
Tu auras des niches partout.
Ah, mais mon père, il suit des influenceurs tracteurs, hein, donc il y a vraiment tout. Donc ça fonctionne bien, mais même j'essaie de me projeter sur d'autres métiers. Mais typiquement, les RH, elles se reconvertissent beaucoup sur des métiers qui sont proches de l'humain, du type coach, consultant en bilan de compétences, coach carrière, consultant, tout ça, c'est des métiers qui leur parlent parce que le lien, c'est l'humain. Et donc la réflexion qu'elles ont derrière, j'imagine, c'est qu'est-ce que j'aime dans les RH ? Être avec les humains, parler avec les gens, aider, transmettre, etc. Ok, donc quel métier va m'amener à faire ça? Ça peut être une bonne façon de réfléchir, de vraiment faire son CV de compétences et se dire, ok, mes compétences, dans quel métier elles peuvent être réutilisées? Moi, j'aimais écrire, donc j'ai ouvert un blog. J'aimais parler, donc j'ai ouvert un podcast. Et j'ai réutilisé les sujets que je connaissais déjà. Donc voilà, faire un mix entre des activités qu'on aime faire, les compétences qu'on maîtrise, relier les deux, et ça peut être un bon démarrage, en fait. C'est pas forcément le truc qu'on fera toute la vie, mais moi, j'ai procédé comme ça. J'avais les compétences RH, j'aimais créer, j'ai créé des contenus RH. Et après, une fois que j'avais maîtrisé les compétences création de contenu, j'ai pu faire un petit pas sur la suite. Et voilà, pourquoi pas créer des contenus sur d'autres sujets que les RH. C'est peut-être un jour, j'aurais maîtrisé d'autres sujets, je pourrais faire un autre métier qui viendra de ces compétences-là. Alors, on verra. Mais c'est pour ça que ça fonctionne bien, cette théorie des petits pas, parce que chaque fois que vous faites un pas, vous avez une vision plus globale du paysage et donc des trucs que vous n'aviez pas vus de base. C'est le conseil en influence RH, il y a 2 ans, non, je ne pensais pas que j'allais faire ça, puisque je n'avais pas l'expérience encore de l'influence RH, de me dire, ah ok, les clients, ils ont tel besoin, et moi, j'aime bien le faire, donc je vais faire ça.
Alors là, t'ouvres un chemin dans lequel je m'engouffre, parce que c'est un sujet important pour moi, et en même temps, on n'a plus beaucoup de temps, mais il y a cette question des portes qu'on va s'ouvrir. Et en fait, on a tendance à ouvrir des portes. Tiens, je pourrais faire ci. On ouvre la porte. Je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, je pourrais m'en convertir, je pourrais faire ce machin truc. On va ouvrir une dizaine de portes. Puis après, on va en fermer deux, on va en réouvrir trois. Puis on va en fermer une parce que ça paraît pas réaliste. Puis on va en réouvrir une. Mais en fait, à un moment, on s'en fout. À quel moment tu rentres dans une porte? À quel moment tu pénètres à l'intérieur pour voir ce qu'il y a derrière et les 10 autres portes qui sont derrière? Ça va un peu dans le sens de ce que tu dis. Il y a pas mal de pas qu'on ne peut pas voir tant qu'on n'a pas fait le premier pas. Et la plupart d'entre nous, et c'est le cas de beaucoup de mes clients, c'est mon cas aussi, enfin, j'essaie d'éviter ça maintenant, mais c'est qu'on se contente de regarder les portes en imaginant ce qu'il peut y avoir derrière, mais on n'en sait absolument rien. Il y a que en faisant, en rentrant, en allant voir des gens et tout, en faisant le projet, qu'on aura accès aux portes d'après, quoi.
C'est tellement ça. Jamais j'ai pu supposer le résultat d'un projet avant de le tester. Et ça, c'est un conseil qui est tout le temps donné en entrepreneuriat, mais qui est vrai pour tout. Si vous voulez savoir ce que ça fait, enfin comment un projet peut marcher ou pas, faut le faire. Il n'y a aucun moyen de savoir à l'avance, parce que même si une autre personne a tenté le même projet, bah c'est pas la même personne qui l'a fait, donc ça peut marcher différemment. Faut le faire, et c'est pas irréversible de le faire. Pas parce que vous êtes entré dans une porte que ça y est, toutes les autres elles sont refermées à vie et c'est plus jamais possible de refaire marche arrière. C'est pas s'il y a une image qui est plus parlante que les portes ou quoi, mais c'est sinueux, quoi. C'est très ouvert avec des fenêtres, des portes.
Il y a plein. Mais on sait jamais ce qu'il y a derrière.
Tester, et rien n'est irréversible et rien n'est grave. La grande majorité des choix, c'est irréversible, et puis c'est ajustable en fonction de ce que vous avez appris en testant ce projet-là. Je teste un projet, je me dis, ah, ok, ça n'a pas marché. Mais j'ai appris ça. Donc, je vais aller tester ce nouveau projet, forte de cette nouvelle leçon. Et ok, ça ne marche toujours pas. Bon, mais okay, j'ai appris ça et ça. Maintenant, j'ai deux leçons que je peux ajouter dans un projet différemment. Et à force, ça marche de mieux en mieux, logiquement.
Est-ce que tu veux conclure quelque chose sur tout ça? Tu ne te sens pas obligé, mais après tout ce... voyage qu'on a fait...
Pas mal parlé... c'était une bonne conclusion, ça a testé. C'est vraiment important. C'est vraiment un truc que j'ai longtemps pensé que je pourrais m'en passer et qui était typiquement l'erreur que j'ai faite quand j'ai voulu m'en convertir. C'est imaginer de façon théorique sans aller tester sur le terrain. Et du coup, quand j'ai commencé à aller tester sur le terrain, ça faisait déjà des mois et des mois que j'ai ce projet-là. Et j'ai été frustrée de me dire, ah là là, j'ai gaspillé 6 mois. Si j'avais testé tout de suite, je me serais rendu compte qu'il y avait un problème avec ce que je faisais. Et bon, tant pis, c'est arrivé, c'est pas grave, je regrette rien, faut pas regretter ce qui s'est passé. Mais si je refaisais le chemin aujourd'hui, peut-être que je me dirais, va tout de suite interroger des dirigeants pour savoir si la gestion des compétences, ça les intéresse. Réponse non, change de projet.
Ok, ouais, en fait, il y a vraiment énormément de liens entre l'entrepreneuriat et la gestion de carrière. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'essaie de faire des parallèles entre les deux depuis quelques mois, là, parce que. On peut difficilement driver sa carrière sans un minimum de culture entrepreneuriale, que ce soit du personal branding, que ce soit du lean, test and learn, bref, de la résilience.
Il y a plein de trucs à récupérer, L'entrepreneuriat c'est un super chemin de développement personnel. C'est l'entrepreneuriat, c'est un peu, t'as pas le choix en fait. Quand tu te lances en entrepreneuriat, t'es obligé d'apprendre à te connaître, à tester des trucs, à assumer l'échec, à confronter au monde. De toute façon, la gestion de carrière, c'est un chemin de développement perso, mais l'entrepreneuriat, c'est peut-être encore plus rapide, quoi, encore plus...
Ouais, et puis on peut entreprendre sans créer une boîte, en fait. On a toujours cette dimension-là, je suis entrepreneur, je crée une boîte. Mais non, tu peux entreprendre en créant une communauté gratuite qui fait boule de neige et puis on voit ce que ça donne, ou autre, quoi.
Bah oui, moi, j'ai pas ambition de faire 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Moi, je veux juste vivre de mon activité en faisant des choses que j'aime. C'est tout.
Écoute, merci Marie, merci infiniment d'avoir pris le temps d'échanger avec nous.
Merci pour l'invitation, c'était très chouette.
Je sais que tu es très sollicité, donc on va retourner au standard. Pour ceux qui nous écoutent, un peu en conclusion de cet échange, j'aime bien poser un défi, un call to action, une idée pour lever un peu le cul du canapé et faire quelque chose, parce qu'on est beaucoup dans notre tête quand on se pose des questions de carrière, on n'est pas beaucoup sur le terrain. Et donc, basé sur ce que tu nous as partagé, Marie, je propose comme défi pour cette semaine de se dire... Si tu as envie de rendre ton boulot un peu plus sur mesure, identifie une qualité, identifie un petit pas et teste à toute petite échelle. Voilà, c'est un gros défi cette semaine, mais Why not? Super. Ben, Marie, merci encore infiniment.
Merci
et
à toi.
Et puis voilà, pour vous tous qui êtes fidèles à ce podcast de plus en plus, bah, merci de votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau tuto. Et puis, à la prochaine. Bonne semaine à tous.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils de carrière pour vous-même ou pour vos collaborateurs, vous pouvez me retrouver sur albanmas.com.